En ce début des années 50, Ian Fleming est un quadra heureux. Issu d'une famille de banquiers de la haute société britannique, l'homme est distingué, érudit, il porte le nœud papillon et manie avec élégance son fume-cigarette. Comme tous les ans, il vient de quitter son domicile de Londres pour passer 2 mois d'hiver en Jamaïque. Il adore ce pays. Il y a d'ailleurs fait bâtir une résidence de style colonial tropical. Il l'a nommée Golden Eye, du nom d'un projet d'opération secrète qu'il avait conçu pendant la guerre. Ian a fait beaucoup de petits boulots dans sa vie avant de devenir journaliste. Mais ses meilleurs souvenirs viennent de sa carrière d'officier du renseignement naval. De 1939 à 1945, il travaille pour l'amiral John Godfrey, directeur du Naval Intelligence Department. Autant dire qu'il fréquenta longtemps et de près, de très près, ce monde si secret de l'espionnage.
Podcast Story.
Ce matin du 17 février 1952, Ian s'assoit à son bureau, face à la mer, avec en tête une idée qui ne le quitte plus depuis quelques semaines. Un projet qui se précise de plus en plus. Une envie d'écrire. Écrire une histoire. Une fiction sur un agent spécial très secret, tout autant qu'un agent secret très spécial. Ian s'installe confortablement dans son fauteuil et place quelques feuilles de papier dans sa machine à écrire. Ian Fleming prend une grande inspiration, attend un instant et puis se lance. Ses doigts d'abord hésitants apprivoisent la machine, trouvent leur rythme, les mots s'imposent d'eux-mêmes, les phrases s'enchaînent avec aisance et excitation. Son esprit se libère, son imagination se révèle. Les pages se noircissent avec clarté. L'histoire se construit, son personnage prend vie. Quelques heures plus tard, il relève la tête de ses feuillets, regarde sa montre et décide de faire une pause pour le déjeuner. Il a déjà écrit 2000 mots. À 17h, après une courte sieste, il se relit, modifie quelques passages, rature et réécrit. Il s'installe sur sa terrasse, fatigué mais heureux de sa journée. Il admire le soleil couchant. Le lendemain, Ian écrit de nouveau, sans plan, en laissant son inspiration heure après heure le guider. 1 mois plus tard, son livre « Casino Royal » est terminé. L'agent 007 est né. Le premier tirage de son éditeur est modeste, 4750 exemplaires. Pourtant, rapidement, le livre suscite l'intérêt et la chaîne de télévision américaine CBS achète les droits pour 1 000 $. Le téléfilm d'1 heure qui en est tiré est diffusé le 21 octobre 1954. Pour la première fois, le public américain découvre sur son petit écran un personnage qui deviendra le plus célèbre des agents secrets du cinéma, James Bond. Ce nom, Ian Fleming l'a choisi un peu par hasard. Alors qu'il y réfléchissait, son regard est tombé sur un livre de sa bibliothèque, « Les oiseaux des Antilles », un ouvrage d'ornithologie écrit par un certain James Bond. Quelques années plus tard, on verra James, lui-même, dans 2 de ses films, « Octopussy » et « Meurt un autre jour », en train de feuilleter un livre de l'écrivain dont il hérita du nom. Ce ne fut pourtant pas le premier choix de Ian Fleming. L'une de ses premières versions de Casino Royale met en scène James Secretan. James Secretan avouait que c'est un peu moins glorieux. Pour Ian, James Bond est le nom parfait. Il correspond à sa volonté d'avoir un personnage aussi anonyme que possible. Il le trouve bref, simple, pas romantique pour un sou et pourtant bien viril. Bond est le prototype du playboy, du beau héros musclé qui garde en toutes circonstances son sang-froid et son humour so British. Il devient rapidement le symbole de l'essor de la société de consommation en Occident. 1957. Le KGB établit une fiche de renseignement sur l'agent britannique. On peut en lire cet extrait dans « Bon baiser de Russie ». Nom, Bond. Prénom, James. Taille, 1m83. Poids, 76 kg. Corpulence, svelte. Yeux bleus, cheveux noirs. Une cicatrice au travers de la joue droite et sur l'épaule gauche. Trace de chirurgie réparatrice au dos de la main droite. Athlète complet, excellent au pistolet, à la boxe, au lancer du couteau, n'utilise pas de déguisement. Langue, français et allemand. Fume énormément des cigarettes spéciales avec 3 bandes d'or. Ses vices, boisson, mais sans excès, les femmes. N'est pas considéré comme susceptible de se laisser corrompre. Conclusion. Cet homme est un dangereux terroriste professionnel et un espion. Il travaille pour le service secret britannique depuis 1938 et porte dans ce service le numéro 007. Si ce portrait est un peu succinct, il est assez proche de la réalité. Sa chef, M, dans GoldenEye, le présente ainsi. James est un dinosaure sexiste et misogyne, une relique de la guerre froide. Mais d'où vient ce matricule 007 ? Et quelle est la signification de ce double zéro ? Elle est très simple, c'est un code révélant que l'agent qui le porte a le permis de tuer. Ils sont 9 à détenir ce sésame. On les voit tous réunis dans une unique scène d'opération tonnerre où James n'hésite pas à se faire remarquer en arrivant en retard et en s'installant en toute décontraction à la place numéro 7. On croise d'ailleurs parfois ses collègues de matricule. 002 est tué dans l'homme au pistolet d'or. 003 meurt au début du bien-nommé Dangereusement Vôtre. 004 et 006 connaissent le même sort dans Tuer n'est pas joué. Quant à 009, c'est dans Octopussy qu'il pousse son dernier soupir. Mais qui est réellement James Bond ? Pour le savoir, peut-être faut-il commencer par s'arrêter un instant sur ce qu'il aime. Il aime conduire, particulièrement ses Aston Martin DB5 ou DB10, sa Lotus Esprit S1, sa Jaguar XKR et bien d'autres bolides. L'important pour lui, c'est de les conduire vite, car explique-t-il, « M'engager dans une course folle avec une jolie fille qui m'a dépassé en voiture me donne l'impression de vivre intensément. » Il aime boire du blanc de blanc brut, 1943. Il aime le bourbon. Il aime le cocktail qu'il a lui-même imaginé, le Vesper. Pour le préparer, vous prenez 3 mesures de Gin Gordon's, une mesure de vodka, une demi-mesure de quina lillet, un citron zesté, et vous mélangez le tout avant de le déguster. Mais sa boisson préférée reste la vodka martini, à mélanger, bien entendu, au shaker, jamais à la cuillère. Son repas favori, le petit déjeuner qu'il compose de 3 œufs brouillés au bacon et de 2 grandes tasses de café noir sans sucre. Pour le goûter, oui, James aime parfois prendre un 4 heures pour reprendre des forces. Il commande souvent du foie gras. Et pour le dîner, il apprécie la sole grillée ou meunière, les œufs cocottes et le roast beef froid. Ce qu'il déteste par-dessus tout, le thé, qu'il considère comme de la boue et l'une des principales raisons de la chute de l'Empire britannique. Il aime fumer des Morland préparés spécialement pour lui. Il carbure sur une moyenne de 3 paquets par jour. Et enfin, il aime porter un Beretta 25 dans un étui léger en chamois ou un Walter PPK 765. 1964. Cette année-là, l'inimaginable arrive. Le pire se produit. James Bond meurt. Ou plutôt, il est présumé mort. On peut lire dans « On ne vit que deux fois » sa nécrologie rédigée par son chef M pour le journal Times. C'est la première et unique fois que l'enfance de James Bond est évoquée. Que l'on peut enfin découvrir les événements déterminants de sa biographie qui ont fait de lui l'homme qu'il est devenu, celui que l'on connaît aujourd'hui. On y apprend qu'il est le fils d'Andrews Bond, un Écossais originaire de Glencoe, qui travaille comme représentant à l'étranger de la firme britannique d'équipement militaire Vickers. Sa mère s'appelle Monique Delacroix. C'est une Suissesse du canton de Vaud. La famille Bond, pour les besoins de la profession du père, change sans cesse de pays. James passe ainsi une bonne partie de son enfance à l'étranger, ce qui explique qu'il parle si bien l'italien, l'allemand et le français. À l'âge de 11 ans, sa vie bascule. Un terrible drame se produit. Un traumatisme qui bouleverse son existence et laissera une influence indélébile sur sa personnalité, ses comportements, ses choix de vie. Le cataclysme émotionnel que subit le jeune James explique et justifie sans nul doute sa volonté de vivre en marge de la société, mais aussi de ne jamais s'engager amoureusement, de peur d'avoir à souffrir de la perte de l'être aimé. Alors que la famille passe de paisibles vacances à la montagne, dans le massif des Aiguilles Rouges au-dessus de Chamonix-Mont-Blanc, un terrible accident provoque la mort de ses parents. James est orphelin. Il est confié à Miss Charmian Bond, une de ses tantes habitant dans un village appelé Pet Bottom, près de Canterbury, dans le Kent. L'année suivante, il entre au célèbre collège public de garçons Eton, pour un passage bref et pourtant remarqué. Après avoir eu des ennuis, pour reprendre l'expression du directeur de l'établissement, avec la bonne d'un de ses camarades de classe, il est exclu de l'école au bout de deux trimestres. Il rejoint finalement Fetz, l'ancien collège de son père où règne une atmosphère assez calviniste. C'est un lieu où les études, tout autant que le sport, sont rigoureusement cotées. Solitaire de nature, le jeune James noue cependant de solides amitiés dans les cercles sportifs du collège. Il y porte les couleurs de son école pour deux combats dans le championnat de poids léger. James tente de vider ses débordements d'énergie dans le sport. Il quitte ce collège l'année de ses 17 ans. C'est grâce à la complicité d'un ancien collègue de son père qu'il arrive à se faire passer pour un jeune homme de 19 ans pour entrer dans un département qui deviendra le ministère de la Défense. C'est ainsi qu'il débute une carrière qui l'amènera à devenir un agent secret au service de Sa Majesté. À quoi ressemble James Bond? Ou plutôt, à qui? Pour beaucoup, il est et restera cet homme viril et élégant, au regard malicieux et au sourire charmeur, qu'a magnifiquement incarné Sean Connery. Pourtant, la première fois que James apparaît à l'écran, dans le film TV de CBS, c'est sous les traits de Barry Nelson, un comédien que vous connaissez sans le savoir. C'est lui qui joue le rôle du directeur de l'hôtel dans Shining de Stanley Kubrick. Pour cette première apparition, James est très étrangement un agent américain, travaillant pour la CIA. Une erreur de jeunesse, certainement. Selon Sean Connery, l'important, c'était de jouer, je cite, « la carte de la crédibilité, du réalisme, quelle que soit la situation. Ce n'est qu'après que j'ajoutais l'élément humoristique. » On peut reconnaître à tous les comédiens qui sont entrés dans la peau de l'agent secret qu'ils ont chacun, à leur manière, réussi à s'approprier une partie de sa personnalité. Parmi les moins marquants, il y a eu David Niven et George Lazenby, qui passèrent un peu en touriste. Timothy Dalton et Pierce Brosnan apportèrent quant à eux, avec une nuance bienvenue, une nouvelle élégance plus british à James. Le changement le plus inattendu et brutal arrive avec un comédien au physique plus proche d'un agent du KGB que des services secrets britanniques. Et pourtant, les années et les films s'enchaînent et c'est bel et bien toujours Daniel Craig qui porte depuis 2006, avec un indéniable charisme et sex appeal, le costume de 007. 1969, c'est une année particulière pour James, l'année du meilleur et du pire. Pour la première et la dernière fois de sa vie, il décide de mettre un arrêt à sa carrière de séducteur et demande en mariage la comtesse Teresa di Vincenzo. C'est le prestigieux joaillier Charles de Temple qui crée l'anneau nuptial, un bijou d'exception sur lequel est gravé le serment « pour l'éternité dans ce monde ». Une éternité en l'occurrence de courte durée, comme on peut le voir dans « Au service de Sa Majesté ». Quelques instants après avoir dit « oui », la belle est assassinée. C'est Diana Rigg, connue pour son rôle d'Emma Peel dans « Chapeau melon et bottes de cuir », qui fut l'unique éphémère épouse de 007. Le voilà donc contraint à retrouver sa vie de séducteur, entouré par ses James Bond Girls. Dans les livres, le profil de la James Bond Girl est relativement toujours le même. Entre 20 et 30 ans, soit 10 ans de moins que lui. Elle est joliment fatale et fatalement jolie. À la peau soit très bronzée, soit particulièrement pâle. Avec une féminité ouvertement affichée, mais un comportement assez masculin. Des formes, mais sans la forme. Autre point commun, elles sont toutes très très peu frileuses et sont habituellement soit peu vêtues, un bikini ou une nuisette font l'affaire en toute saison et en toutes circonstances, soit complètement dévêtues. Ce qui fait dire à James dans Goldfinger cette inoubliable réplique « Mademoiselle Anders, je ne vous avais pas reconnu tout habillée ». Les James Bond Girls ont des noms qui ne trompent pas sur leurs intentions qui ressemblent à s'y méprendre à des invitations. Pour exemple, Miss Kissy, Mary Goodnight, Honey Rider ou Pussy Galore. La James Bond Girl est, selon Ian Fleming, une femme idéale qui, je cite, « doit savoir faire la sauce béarnaise aussi bien que l'amour. Avoir des cheveux d'or, des yeux gris, une bouche à dan et un sein, un corps parfait. Et naturellement, un grand sens de l'humour, de l'élégance et une dextérité convenable aux cartes. » À l'écran, les James Bond Girls prennent les traits et les formes de nombreuses comédiennes plus ou moins célèbres au moment du tournage. Parmi les plus mémorables, Ursula Andress, Jane Seymour, Deborah Kerr, Jacqueline Bisset, Carole Bouquet, Kim Basinger, Holly Berry, Sophie Marceau, Eva Green, Léa Seydoux, Monica Bellucci. séducteur invétéré, il les charme toutes puis les quitte avec un détachement exemplaire. Mais coucher avec Bond est dangereux. C'est même un choix qui s'avère fatal pour nombre d'entre elles. Au total, on a pu voir sur grand écran 33 James Bond Girls rendre leur dernier souffle. À titre d'exemple, Eva Green meurt noyée dans un immeuble qui s'effondre à Venise. Shirley Eaton s'étouffe jusqu'à ce que mort s'en suive, le corps totalement recouvert par une peinture dorée. Quant à Karine Dor, elle fera office de repas pour une horde de piranhas particulièrement affamés. 1977. Cette année-là, James va devoir s'opposer au plus méchant des méchants de sa carrière. Si on aime tant 007, il faut bien avouer que c'est aussi grâce à ses terrifiants adversaires que l'on adore détester. Dans « L'espion qui m'aimait », c'est l'un des plus flippants d'entre eux que l'on découvre. Celui que l'on surnomme « le requin ». Du haut de ses 2,18 m, avec le sourire étincelant de sa mâchoire en acier, on a souvent l'impression qu'il ne va faire qu'une bouchée de notre agent préféré. James le recroisera 2 ans plus tard dans « Moonraker ». Aussi monstrueux soit-il, le requin n'impressionne pas par son éloquence. Il se contentera lors de ces 2 films d'une unique réplique. James ne serait pas le même sans la musique qui l'accompagne. Oui, il ne se déplace jamais sans elle. Qu'il soit en train de séduire sa prochaine conquête ou de mettre en morceaux l'un de ses ennemis, elle est là, bien présente. Le thème le plus connu s'invite lors du générique. Alors qu'on le voit, à travers le canon d'une arme, marcher, puis dégainer, puis tirer, explose la musique de John Barry. La BO de ses films est aussi composée de chansons restées célèbres. Les plus grands interprètes s'y sont collés. Shirley Bassey avec Goldfinger, Tom Jones avec Thunderball, Nancy Sinatra pour You Only Live Twice, les Wings de Paul McCartney pour leur Live and Let Die, Sheena Easton pour For Your Eyes Only, Duran Duran, A View to a Kill, Tina Turner, Golden Eye, Madonna, Die Another Day, ou Adele pour Skyfall. Derrière le succès des aventures de James Bond, il y a un nom bien connu au générique de chacun de ses films, Albert R. Broccoli, ancien agent artistique de Lana Turner et Robert Wagner. Albert devient producteur en 1953. À l'époque, il a pour ambition d'adapter les romans de James Bond à l'écran. Mais le public est-il prêt à suivre les aventures de ce personnage atypique ? Le 17 mars 1961, Albert découvre dans le magazine Life la liste des 10 livres préférés du président John Fitzgerald Kennedy. En 10e position, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et juste devant, en 9e place, Bon baiser de Russie de Ian Fleming. Albert n'en croit pas ses yeux. C'est le signe qui lui manquait pour sauter le pas. Il a donc fallu l'aval d'un président américain pour offrir la gloire à un agent secret britannique. Ian Fleming, le créateur de James Bond, a écrit entre 1952 et 1964 12 romans et 8 nouvelles mettant en scène son personnage. Faisant de lui peu à peu un mythe contemporain, devenu l'une des plus longues sagas de l'histoire du cinéma. Plus de 4 milliards de spectateurs ont vu un film de James Bond. Celui qui apporta le succès, la reconnaissance et la fortune à son créateur fut aussi celui qui lui causa sa perte. Le 12 août 1964, Ian Fleming meurt d'un infarctus à l'âge de 56 ans. Il n'était pas d'une constitution assez robuste pour faire face à cette tension incessante, confia son épouse. Les médecins avaient multiplié les avertissements. Ce travail était trop éprouvant pour un homme qui venait de subir un grave infarctus. Mais les éditeurs, les producteurs de films, la presse et le public en voulaient toujours plus. Et pour Ian, le travail était devenu une obsession. Bond était son Frankenstein. Pris en otage par la popularité de son personnage, Ian paya la rançon du succès. Il fut enterré à Sevenhampton, près de Swindon. Quelques jours plus tard, Goldfinger illuminait les salles obscures du monde entier. 2021, le 6 octobre. James est de retour avec « Mourir peut attendre », la boucle est bouclée. À l'image de son créateur qui lui donna naissance face à la mer des Caraïbes, James débute sa nouvelle aventure précisément en Jamaïque. Après avoir quitté les services secrets, il profite d'un repos bien mérité. C'est sans compter sur son vieil ami Felix Leiter de la CIA qui vient interrompre sa tranquillité pour une nouvelle mission, sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Voilà Bond se retrouvant de nouveau face à un méchant, comme on les aime, un ennemi de la pire espèce, utilisant, 21e siècle oblige, de redoutables armes technologiques. Si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas spoiler ce qui est le dernier James Bond incarné par Daniel Craig. Sachez seulement que les fans sont désespérés, ils jurent à la trahison. Les autres, ceux qui apprécient un film de Bond comme un simple film d'action, ceux-là passent un bon moment. Accrochons-nous à cette réplique célèbre d'un personnage de l'homme au pistolet d'or. « Mr. Bond, vous avez la fâcheuse habitude de survivre. »
Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.
Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.